Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre.
In My Shoes.
Notre société voit désormais une génération d'aidants familiaux pris en sandwich entre leurs enfants dont ils s'occupent et leurs parents en perte d'autonomie. Comment ces aidants arrivent-ils à gérer et faire cohabiter ces différents rôles? Comment les aider à se préserver eux-mêmes sans sacrifier leur vie professionnelle?
Ce sont non seulement des couteaux suisses dans la prise en charge de leurs proches, mais ce sont aussi des couteaux suisses en entreprise.
C'est en compagnie d'Hélène Rossineau, médecin de santé publique, qui est aussi auteur d'ouvrages comme « Être présent pour ses parents » publié en 2022, ou encore « Aidant, c'est invisible ». C'est donc avec Hélène que nous allons aborder ce sujet et le difficile équilibre nécessaire pour ceux qui vivent cette situation au quotidien. Experte du champ social des aidants, elle aborde avec nous les impacts de cette double situation et propose des pistes de réflexion pour la gérer au mieux, notamment en entreprise. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Hélène, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet des aidants dans un podcast d'entreprise ?
Eh bien, on parle du sujet des aidants dans un podcast d'entreprise parce qu'on commence à se rendre compte que c'est une réalité de tous les jours pour les entreprises que d'avoir des salariés qui sont aidants au quotidien. Parce que on ne parle pas de 2-3 personnes dans une entreprise, on parle de 11 millions de Français qui sont aidants, quand même dans le pays, c'est déjà beaucoup, et ça concerne à peu près 7 millions de salariés au total, puisque sur ces 11 millions d'aidants, 60% environ travaillent. Donc ça touche toutes les entreprises, peu importe leur taille. Donc je pense que c'est très très important, au contraire, qu'on en parle dans un podcast d'entreprise. En 2030, un actif sur 4 sera aidant, donc ça monte de plus en plus entre le vieillissement de la population et l'explosion des maladies chroniques. Le sujet est déjà très important aujourd'hui, mais il sera vraiment incontournable en 2030.
Hélène, alors un aidant, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait et est-ce qu'il y a différents types d'aidants ?
Alors, un aidant, c'est tout simplement quelqu'un qui accompagne de manière régulière, pas forcément au quotidien, mais de manière régulière, un de ses proches, qu'il soit malade, porteur d'un handicap ou dépendant à cause de l'âge. Donc, ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'un aidant peut assumer beaucoup de rôles différents. Ça peut être le soutien moral, ça c'est la première chose qui nous vient tous en tête, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça peut être la surveillance de l'état de santé de la personne, parce qu'en particulier quand il y a une maladie ou un handicap, les proches sont souvent les premiers à être capables de dire quand quelque chose ne va pas et donc à surveiller pour alerter derrière les équipes soignantes. Ça implique la coordination des soins, du personnel qui vient à la maison, des infirmières, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, donc de toute une équipe. Ça implique de gérer un budget, ça implique de gérer les urgences, y compris d'accompagner le proche au milieu de la nuit quand il y a un souci à l'hôpital, même s'il y a une réunion à 8h le lendemain. Et d'être à la réunion le lendemain. Bref, c'est vrai que les aidants font un peu de tout, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et peu de gens qui ne l'ont pas vécu se rendent compte vraiment de ce que ça représente.
Ces situations, j'ai l'impression, se compliquent parce que dans l'évolution de nos sociétés, avant, on passait de « je m'occupe des enfants qui sont petits » et puis après, ils grandissent et on s'occupe de ses parents vieillissants. Et maintenant, on gère les deux à la fois, en fait.
Exactement, maintenant, on gère les deux à la fois. C'est ce qu'on a appelé la génération sandwich, d'où le titre du podcast « Ceux qui sont pris entre leurs enfants et leurs parents, ou en tout cas leurs parents vieillissants. » Et c'est une génération qui a entre 40 et 50 ans en général, qui doit tout gérer. Quand on ajoute le stress des enfants, la vie en couple par exemple, l'emploi à temps plein et le proche qu'on accompagne, le sandwich est parfois dur à avaler.
Justement, qu'est-ce que ça provoque chez les aidants ? C'est quoi ? C'est de la colère, du découragement, de la frustration ? Par quoi ils passent, j'allais dire ?
C'est vrai qu'être aidant, ça provoque tout un tas de sentiments différents. Colère, découragement, frustration, tristesse, bonheur en même temps. C'est un peu un arc-en-ciel d'émotions qu'on choisit et qu'on ressent à un moment ou à un autre. On passe par toutes les couleurs, j'ai envie de dire. Heureusement, ça ne provoque pas que des émotions négatives. Il y a beaucoup d'aidants qui expliquent aussi que être aux côtés d'un proche qu'ils aiment, ça leur fait aussi du bien. Parce qu'on ne peut pas voir toujours les choses en noir. On va dire. Ça n'empêche que, à côté de ça, déjà, ça provoque souvent beaucoup de frustration. Après, le quotidien et la famille, de manière générale, ça a l'air d'apporter beaucoup de frustration. Soyons clairs. Mais c'est vrai que l'empilement de dossiers, l'administratif, la conciliation de toutes les tâches qui arrivent dans tous les sens, ça épuise. Souvent, ça met en colère. Mais il y a plusieurs choses qui mettent en colère. Et il y a l'injustice. Ce sentiment d'injustice, ce sentiment de pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi moi, pourquoi est-ce qu'il faut que mon parent soit malade, pourquoi je dois tout gérer en même temps, ça peut mettre en colère, ça peut rendre triste. et c'est tout à fait normal. Et quoi qu'il arrive d'ailleurs, peu importe que peuvent ressentir les aidants, c'est important de leur dire que toutes ces émotions sont normales, qu'il n'y a pas à se sentir coupable ou honteux de ressentir quoi que ce soit. On a le droit de se sentir soulagé quand ça finit ou quand on part en vacances et qu'on a un peu de temps dehors de ce moment de sandwich, entre guillemets. On a le droit de se sentir découragé parfois, on a le droit d'être furieux, on a le droit d'être triste, d'être déprimé, on a le droit de tout ressentir. On a le droit d'être extrêmement stressé parce que, soyons honnêtes, ça apporte aussi son lot de stress au quotidien.
Le fait d'être aidant, qu'est-ce que ça provoque dans l'attitude au quotidien?
Être aidant au quotidien, ça peut provoquer un grand stress, en particulier quand il y a déjà eu un problème que j'appelle aigu, une urgence. C'est un peu comme dans le stress post-traumatique. Il y a une réponse qu'on appelle l'hypervigilance, c'est-à-dire que si vous avez par exemple été à la guerre, les vétérans, souvent, ils sursautent au moindre bruit qui leur rappelle quelque chose qu'ils peuvent avoir vécu sur le champ de bataille. Vous savez, ce fameux appel, c'est le numéro de votre mère qui s'affiche, et quand vous décrochez, c'est pas la voix de votre mère au téléphone. C'est quelqu'un qui vous dit « Vous êtes Madame Intel, il y a eu un souci avec votre maman ». Ça, c'est le coup de fil que, globalement, tout le monde craint. À partir du moment où il est arrivé, à chaque fois que vous voyez le numéro s'afficher, vous avez ça en tête. Vous êtes plus vigilant, vous regardez votre téléphone. Et c'est valable avec toutes les situations. Donc, cette hyper-vigilance, pour moi, elle est assez comparable avec ce stress post-traumatique. C'est vraiment, on est sur le qui-vive tout le temps. J'avais rencontré une aidante dont le papa avait un appareil qui permettait de le maintenir en vie, qui bipait, il y avait une alarme, quand il se débranchait, parce qu'il avait besoin d'être branché tout le temps. Et elle se réveillait au milieu de la nuit, quasiment toutes les nuits, persuadée qu'elle entendait l'alarme sonner. Alors que pas du tout, tout allait bien, le papa dormait, l'appareil était bien branché, mais pour elle, comme elle l'avait déjà entendu, son cerveau était complètement stressé et il imaginait entendre cette alarme absolument tout le temps. C'est la même chose au quotidien pour beaucoup d'aidants.
Quel est l'impact de tout ce que vous nous exprimez? On a bien compris les contraintes et le poids des choses. Quel est l'impact sur le collaborateur aidant dans son travail?
Alors, il y a beaucoup d'impact sur le collaborateur dans son travail. D'abord, ceux qui ne l'ont pas vécu, parce que cette phrase-là, je l'entends vraiment beaucoup, sont persuadés que on peut arriver au travail à 9h du mat, laisser tous ses problèmes de famille dehors, aller travailler tranquille, hein, l'esprit libre, concentré à 100%, pouf! Et quand on ressort, on referme la porte, on reprend ses problèmes et on repart avec. Ben, ça ne marche pas du tout comme ça. On n'est pas capable de se mettre en mode avion en tant qu'humain. On ne peut pas arrêter son cerveau. Quand on est inquiet toute la journée. Et d'ailleurs, on peut être inquiet pour plein d'autres raisons que le fait d'être aidant. Hein, parce que là, il ne faut pas tout mettre non plus sur le rôle des aidants. Il n'y a pas que les aidants qui peuvent être inquiets, qui peuvent être stressés, qui peuvent parfois manquer de concentration. On l'a tous vécu, ça. Mais c'est vrai que ça arrive assez fréquemment. On peut être plus absent pour plein de raisons, soit parce qu'on accompagne son proche, par exemple, à des rendez-vous, qu'on doit partir un peu plus tôt, soit parce que le fait d'avoir pris soin de son proche a pesé sur notre santé et qu'on a eu besoin d'un arrêt maladie, parce que ça, on en parle assez peu, mais être aidant, c'est compliqué pour la santé aussi, de la personne qui aide, et donc les arrêts de travail peuvent arriver. Parfois, on a besoin de baisser sa quotité de travail parce que ça devient trop lourd de tout gérer et qu'on considère que accompagner son proche, bah, c'est la priorité. On peut carrément démissionner dans certains cas, on peut tenter une rupture conventionnelle et je l'ai vu plusieurs fois avec des employeurs très peu compréhensifs qui préféraient une démission plutôt que ça malgré la situation qu'il y avait derrière. Et je pense que c'est une vraie question. On peut exploser en vol et être en burn-out en se disant qu'on va tenir jusqu'à ce qu'on tienne plus. Et puis ça provoque aussi beaucoup de turnover dans les entreprises et ça on en parle assez peu, mais quand on perd son collaborateur parce qu'il est parti s'occuper de son proche, qu'on doit prendre le temps d'en recruter un autre, de l'onboarder, de le former, qui s'habitue à tous les process internes de l'entreprise, ça prend un temps fou et ça coûte cher à l'entreprise. Alors qu'en plus, sur cette tranche d'âge, c'est quand même des salariés qu'on n'a pas envie de perdre. C'est des salariés qui ont de l'expérience, c'est des salariés qui sont souvent là depuis un petit moment. Donc, l'entreprise a intérêt vraiment à changer sa façon de voir les choses et à essayer de faire en sorte de ne pas perdre ses aidants, justement, de ne pas les pousser à avoir besoin de partir.
Comment est-ce que les aidants gèrent, j'allais dire, avec leurs entreprises?
Certaines entreprises sont plus sensibilisées que d'autres. Disons que certaines ne sont pas sensibilisées du tout. On va partir du niveau zéro. Dans d'autres, quand les salariés en discutent avec les RH, ils trouvent un peu de soutien, voire avec, par exemple, les protections sociales qui viennent avec l'entreprise, peuvent trouver des aides un peu plus concrètes, des aides psychologiques, des aides des assistantes sociales, par exemple. Mais ne serait-ce parfois que de pouvoir parler à un collègue un collègue qui vous regardera pas de travers si vous arrivez un peu en retard parce que vous avez passé la nuit aux urgences avec votre conjoint et que vous aviez bien cette réunion à 8h du matin, mais qu'il est possible qu'à 8h du matin, vous soyez crevé et que donc vous n'arriviez qu'à 8h10 avec des énormes cernes sous les yeux. Mais ce collègue, lui, sera au courant. Et le fait qu'il soit au courant et qu'il ne vous regarde pas avec colère, mais qu'il soit là après la réunion pour vous demander comment ça va et pour que vous puissiez vider votre sac, rien que ça, parfois, ça peut aider. Le plus important d'abord, avant même de mettre en place des mesures quelles qu'elles soient, c'est de parler aux salariés, de sensibiliser tout le monde dans l'entreprise, parce que ça nous arrivera tous un jour, soit d'être aidant, soit d'être aidé, et qu'une des choses qui pèsent le plus sur le moral et sur la charge mentale des aidants au travail, c'est pas tant l'absence d'abord de mesures que le regard du manager, que le regard des collègues, que la peur de se faire virer, parce que les autres ne comprennent pas ou ne savent pas ce que vous vivez. Donc, c'est vraiment une priorité que de changer le regard et changer la culture de l'entreprise.
Il y a des clichés qui sont rattachés aux aidants. On imagine que ce sont des gens faibles, etc. Mais en fait, ils ont aussi peut-être développé des qualités utiles aux entreprises.
Effectivement, les aidants développent une flopée de qualités qu'on appelle dans le langage de l'entreprise les soft skills. Par exemple, un mental et une force de persuasion énorme, une grande capacité de générosité, voire même d'altruisme, une capacité d'écoute très importante, une capacité à être multitâche, à gérer un nombre de dossiers importants en même temps, mais aussi plus concrètement à gérer un budget, à respecter des deadlines à la minute près, à coordonner des équipes, à négocier, à faire du lobbying, le tout en étant extrêmement résistant, et puis une grande capacité de communication aussi, bref, tout un tas de qualités qui sont extrêmement utiles en entreprise. Donc je pense que c'est une urgence de changer de regard sur les aidants, de mettre en valeur enfin tout ce qu'ils font de bien, et d'arrêter de se focaliser sur, oui, les 2-3 jours où ils sont arrivés un tout petit peu en retard, où ils ont dû partir un peu avant.
Comment est-ce que les entreprises peuvent contribuer à améliorer la situation, concrètement ?
Alors d'abord, il faut changer de prisme. Et je le dis assez souvent, prendre soin de ses salariés, c'est pas un problème de plus pour les entreprises. Ça doit être une ambition, et une ambition qu'on doit tous avoir. Du PDG, du CODIR, au salarié le plus bas de l'échelon. On doit tous prendre soin les uns des autres et avancer ensemble. C'est un défi RH, mais pas que. Pour moi, c'est un défi humain. Je fais souvent le parallèle avec la question du handicap en entreprise, dans le sens où j'aime pas forcément la vision qu'on peut avoir du handicap en entreprise. Parce que souvent, on considère que le handicap est quelque chose qu'on doit compenser. Moi, je trouve que c'est juste des différences qu'on a et qu'on s'adapte pour fonctionner tous ensemble de la même manière, mais qu'on a tous des différences à un moment ou à un autre. Et que donc, changer le regard, ça signifie aussi arrêter de voir les points négatifs et se concentrer sur comment on peut faire ensemble pour travailler, pour se mettre en valeur, pour s'appuyer les uns sur les autres en utilisant les forces et les faiblesses des salariés.
Pourquoi est-ce que les aidants, en général, ne signalent pas qu'ils sont aidants dans leur entreprise ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que certains aidants ignorent l'existence du mot aidant. C'est toujours compliqué de se déclarer comme tel quand on ne sait pas que ça existe. Il y en a d'autres qui connaissent le mot aidant, mais qui, dans cette philosophie du « il y a toujours pire ailleurs », considèrent qu'ils n'en sont pas encore là. Donc vous comprenez, pour être aidant, il faut vraiment être dans une situation absolument désespérée. Ce qui est faux aussi, mais parce qu'on ne leur a pas dit. Et d'où l'importance d'ailleurs de valider aussi, en plus des émotions, de valider les expériences des aidants. Et puis la dernière partie, c'est ceux qui savent qu'ils sont aidants et qui ont peur d'être mis au placard. Et pas à tort forcément, parce que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, dire qu'on est aidant, c'est quasiment signe de pas de formation, pas de promotion, pas d'évolution. Me virez pas, s'il vous plaît. Et ils ne se déclareront comme aidants que quand ils sauront exactement ce que c'est, quand on aura vraiment validé leur expérience, quand on leur aura dit qu'ils sont aidants, qu'ils ont le droit, qu'ils sont légitimes à revendiquer ce mot, et surtout quand ils auront conscience et qu'ils seront convaincus qu'ils ne risquent rien à dire qu'ils sont aidants. Et ça fait beaucoup de conditions. Il y a pas mal de travail encore. Ce qui est important, c'est que l'entreprise parle à ses aidants et utilise ce vocabulaire positif. Pas simplement des banalités du style « c'est bien ce que vous faites, vous êtes des héros ». Non, non, concrètement, que les managers soient formés, qu'on dise à tous les salariés « regardez ce que peuvent faire les aidants, regardez ce qu'ils ont appris, regardez la manière dont ils gèrent les choses ». Il faut accompagner cet apprentissage parce que c'est un apprentissage. on a oublié en tant que société et dans les entreprises l'importance des qualités humaines. Donc je pense qu'il faut qu'on le réapprenne tous ensemble. Et donc les entreprises, ça doit passer par de la sensibilisation, de l'information, avant même de commencer la formation, et de mettre en place tout un tas de solutions pratiques derrière qui peuvent se négocier, du télétravail, des horaires flexibles, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais j'insiste dessus parce que personne n'utilise les ressources qui sont mises à leur disposition s'ils pensent qu'on va les regarder de travers pour ça ou qu'on va les juger pour ça. Et c'est vraiment un gros problème sur le sujet des aidants.
Est-ce que le Covid a changé un petit peu la perception que les entreprises peuvent avoir ou que les gens peuvent avoir sur justement la notion d'aidant ou de vulnérabilité ?
Je pense que le Covid a rappelé une notion essentielle, effectivement, vous l'avez dit, c'est la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité existe et elle n'est pas forcément là où on l'imagine. Bien entendu, le Covid a touché beaucoup de personnes âgées, ça on s'en est rappelé, mais on s'est aussi rappelé que certains collaborateurs avaient par exemple des maladies chroniques, et souvent d'ailleurs, leurs collègues ne le savaient pas forcément. On pouvait être classé vulnérable tout en étant PDG, tout en étant manager, tout en ayant une grande équipe à gérer. Donc c'est vrai que la notion de vulnérabilité est re-rentrée dans notre quotidien et le Covid a aussi fait en sorte que les gens se reposent des questions que je trouve assez essentielles en entreprise. C'est-à-dire qu'on a commencé à se demander si notre travail avait un sens, on a commencé à demander de nouveau plus d'équilibre vie pro-vie perso, plus d'écoute et plus de considération pour l'humain qui est derrière le collaborateur. Et ça, je pense que c'est crucial.
Il y a des entreprises qui font avancer les choses. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples en France ou ailleurs ?
Alors, chaque entreprise fait comme elle le peut. Il y a des entreprises qui font, par exemple, des conférences, qui font beaucoup d'actions de sensibilisation. Ça, c'est très important. Il y a des entreprises qui font des partenariats avec des start-up du domaine, par exemple, qui propose des travailleurs sociaux pour épauler les salariés aidants, qui propose l'accès à des psychologues, qui propose l'accès, par exemple, à des séjours de répit. Tout ça, c'est très intéressant. Dans d'autres pays, on est beaucoup plus avancé. Et je prends toujours comme exemple le Royaume-Uni, qui a mis en place une grosse association d'entreprises, une sorte de MEDEF des entreprises pro-aidants, qui s'appelle Employers for Carers, qui a plusieurs milliers d'entreprises qui sont adhérentes à ce réseau d'associations et qui, du coup, à travers cette adhésion, on leur fournit des formations, du matériel pour la sensibilisation, ils peuvent poser des questions et on les accompagne dans leur accompagnement des aidants. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment très intéressant. Après, encore une fois, j'insiste, parce qu'on l'a vu en Australie, parfois ça passe par la loi. En Australie, il y a une loi, le Fair Work Act, qui oblige les entreprises à accorder plus de flexibilité des horaires aménagés aux aidants qui travaillent. Mais les études qui sont passées derrière pour voir si la loi fonctionnait ont montré que dans les entreprises où la culture d'entreprise n'avait pas changé, n'avait pas évolué, et ben même si c'était un droit, c'est-à-dire même plus une faveur, entre guillemets, mais là un vrai droit, les aidants ne le prenaient pas, ne le demandaient pas, parce que la peur d'être stigmatisé était plus forte que la possibilité offerte par la loi.
On a bien saisi, Hélène, en vous écoutant, la lourdeur, en fait, du problème. Est-ce qu'on peut aider les aidants ? Est-ce que vous recommandez des choses spécifiques ? Comment est-ce que les aidants peuvent s'aider eux-mêmes ou être aidés ?
Alors, on peut faire plein de choses. Déjà, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, si elles ne sont pas aidantes, elles peuvent essayer de regarder autour d'elles, voir si elles ont des collègues qui pourraient être aidants. Parce que rien que d'en parler autour et d'ouvrir la discussion, ça peut rendre un vrai service aux aidants. Après, il y a des associations qui font un super travail, par exemple l'association Avec nos proches, parce que des fois on a envie de vider son sac et on n'a pas forcément envie de tout dire à ses collègues, ni même à sa famille. Et cette association propose un numéro de téléphone gratuit et anonyme qu'on peut appeler, c'est des anciens aidants qui décrochent et qui ont été formés à l'écoute. C'est des personnes qui ont traversé ce que vous traversez et du coup, vous ne vous sentirez pas jugé du tout parce que vous pourrez absolument tout leur dire et ça fait un bien fou.
Hélène, qu'est-ce qu'on vous souhaite ?
Et bien, je pense qu'on pourrait me souhaiter qu'il n'y ait plus forcément besoin que j'intervienne tout le temps en entreprise pour expliquer pourquoi il faut s'occuper des salariés aidants. Parce que ça signifierait qu'enfin, c'est devenu quelque chose de normal, plus quelque chose qu'on regarde un peu de travers, pour lequel il faut se battre. Non pas parce que j'aime pas ça, parce que j'adore ça et que je trouve ça passionnant de pouvoir échanger avec des aidants, mais parce que j'en ai marre d'entendre des gens qui sont malheureux, qui s'excusent et qui se battent alors qu'ils font déjà quelque chose de difficile. Et donc voilà, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que ces 11 millions d'aidants, ces 7 millions d'aidants salariés soient enfin bien pris en charge et bien accompagnés.
Vous venez d'écouter le docteur Hélène Rossineau dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. À bientôt pour un nouvel épisode.